SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
Labor's on track to win the next election in a landslide. But will anything change? Food will still be too expensive, and housing too. And how will we know what's really going on with the toxic algal bloom? If Labor's got all the power, who's going to hold them to account? The Greens will cap rents and build affordable housing, free breakfast and lunches at every school, and be a voice for the climate and environment. You can do better with the Greens. Vote One Greens. Authorised by A. Wheaton, Australian Greens, South Australia, 291 Angus Street, Adelaide.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de notre série consacrée à l'histoire de l'Australie. Aujourd'hui, troisième partie de notre épisode consacré à l'ancien Premier ministre travailliste Bob Hawke. Cette fois-ci, ça y est, celui-ci a remporté les élections en tant que leader du parti et on va s'intéresser plus précisément dans cet épisode à son exercice du pouvoir puisque au cours des 4 mandats qu'il a passés à la tête du gouvernement australien, il a mis en place de très nombreuses réformes, en particulier sur le plan économique. Très bonne écoute à tous. Donc finalement, il prend la tête du parti en février 83 et le mois suivant, en mars, il remporte très largement les élections fédérales, effectivement face à une coalition très impopulaire en fin de mandat. Dans l'épisode qu'on avait consacré à un autre travailliste, Gough Whitlam, qui lui était arrivé au pouvoir 10 ans plus tôt, on avait dit que sous son impulsion, l'Australie était passée, sur le plan culturel en tout cas, du noir et blanc à la couleur. Le gouvernement de Bob Hawke, lui, il va profondément réformer l'Australie sur le plan économique.
Oui, tout à fait. Alors, le grand leader du Parti travailliste dans la seconde moitié du XXe siècle, enfin du moins en termes d'image et de popularité, c'est Gough Whitlam parce qu'il a transformé l'Australie. Il a vraiment fait passer, il a fait changer de siècle en réalité. Et donc, c'est resté une mémoire très vivace pour les Australiens. Bob Hawke, je pense qu'il va falloir encore quelques décennies pour que cette image lui soit également conférée. Que, effectivement, vous avez raison de le rappeler, c'est plus dans le domaine économique, et donc c'est un peu plus, comment on pourrait dire, c'est un peu plus spécifique, un peu moins sexy que ce qu'a fait Gough Whitlam en termes de révolution culturelle vis-à-vis de droits des femmes, vis-à-vis de l'immigration, vis-à-vis des films, des arts, de la musique, enfin voilà, beaucoup de choses sous Whitlam. Hawke s'est concentré sur ce qu'il savait faire, savoir l'économie et le droit des travailleurs et comment fluidifier tout ça. Parce que c'est une époque où il y a énormément d'inflation, de l'inflation en Australie à 12, 13, 14, 15%, c'est énorme. Et donc lui, une de ses principales missions, quand il arrive au pouvoir, déjà il se rend compte qu'il y a un énorme trou dans la caisse et que donc un certain nombre de ses réformes ne va pas pouvoir être menées à grand train et qu'il va falloir attendre. Donc il a cette intelligence de dire « Oh là là, j'ai été élu ». Mais le gouvernement précédent m'a caché le fait que les finances publiques sont dans un état catastrophique, ce qui est paradoxal parce que c'était soi-disant un gouvernement de de small state, vous savez, s'occuper de la police, de l'armée, et puis des prérogatives régaliennes, mais on est un parti libéral sous Fraser, et voilà. Et pourtant...
Fraser qui est arrivé au pouvoir après la destitution de Gough Whitlam, parce que les finances étaient en berne. Là, il n'y a pas eu de destitution. Pardon, je ne vais pas relancer le truc, mais...
Non, mais c'est... C'est très bien que vous notiez l'ironie de l'histoire. C'est très bien. Et donc, Bob Rourke veut se concentrer sur relancer la machine parce qu'il la trouve grippée. Et il se lance dans un certain nombre de réformes qu'on n'aurait pas nécessairement attendues d'un travailliste. Par exemple, la dérégulation de certains marchés. Par exemple, la vente d'entreprises nationales comme la Commonwealth Bank of Australia. De mémoire, je crois que c'est lui qui fait privatiser Qantas également. Donc c'est, vous savez, quand Mitterrand arrive à la même époque, il nationalise. Bob Rourke fait exactement l'inverse. En disant, ce n'est pas le rôle de l'État de s'occuper de choses que n'ont pas besoin absolument tous les citoyens, ou qui peuvent être gérées par des entreprises. Et donc, il privatise. Il fait passer le Sex Discrimination Act, c'est-à-dire c'est une loi anti-discrimination au travail, ce qui en fait va être en faveur des femmes australiennes qui parfois étaient rémunérées, enfin souvent, bien moins que les hommes. Aussi également Medicare. Bon, la sécurité sociale australienne, elle existe depuis bien plus longtemps, mais celui qui l'a vraiment rendue forte, puissante et... Dans tout un tas de domaines, c'est Bob Rourke. La petite carte verte qu'on connaît d'ailleurs, si vous êtes citoyen australien, vous avez cette carte, un peu la carte de sécu française, si vous voulez, c'est Bob Rourke. Il y a une pub qu'on peut encore trouver sur Internet où en fait on voit un facteur qui arrive, qui tape à la porte d'une belle maison, et c'est la résidence du Premier ministre qui l'ouvre. Il y a marqué Monsieur Bob Rourke sur la lettre. Il l'ouvre et c'est sa carte Medicare. Il explique au public australien à quoi ça va leur servir. Donc des réformes sociales également. Mais surtout, si je reviens à l'économique, c'est la fin des droits de douane. L'économie australienne, pendant assez longtemps, était mise sous cloche et protégée par des droits de douane très important, ce qui fait qu'en 1982, vous pouvez avoir une Toyota avec quatre vitres électriques et que la voiture australienne de 1982 elle ressemble plus à celle des années 60. Parce que c'est un marché qui ne s'était pas ouvert à la compétition. Et donc, paradoxalement, ça vient de la gauche, mais ça a permis à l'Australie de se sortir d'un certain marasme en termes d'inflation, un certain marasme aussi vis-à-vis de l'emploi. Et donc, on arrive dans une situation qui est très difficile. Et en quelques années, il arrive vraiment à faire changer les choses. 85, 86, 87 sont plutôt de bonnes années en Australie. Grâce à des réformes à la fois économiques, mais aussi fiscales, je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais aussi en encourageant l'éducation. De mémoire, quand il devient Premier ministre, il n'y a que 3 étudiants australiens sur 10 qui arrivent jusqu'en 3e, et quand il quitte son poste, il y en a 7 sur 10. Terminal. Donc, il accorde des crédits à l'éducation et il essaye de préparer les étudiants australiens en tant que futurs main-d'œuvre pour se transitionner vers une économie de services plutôt qu'une économie agricole ou de production de voitures, de micro-ondes, etc. Donc il est assez visionnaire de ce point de vue-là. Et assez tôt, il invite le chef du Parti communiste chinois à venir dans les Pilbara, qui est une région du nord de l'Australie occidentale, qui avant était inexploitée et qui représente quasiment à elle seule la puissance minière de l'Australie dans les années 90 et 2000, grâce justement à Bob Rourke, qui intègre son pays économiquement dans la zone Asie-Pacifique plutôt que de regarder vers Londres. Donc, un visionnaire quand même.
Alors, on va revenir là-dessus, mais en tout cas, c'est vrai que ce que vous décrivez montre qu'il n'était pas vraiment le tenant d'une gauche très radicale. C'est même des mesures, au final, assez libérales qu'il a mises en œuvre, mais qui, visiblement, ont porté leurs fruits, ont sorti l'Australie d'une situation économique assez difficile et qui explique sans doute la très grande popularité dont il jouit dans ses premières années de mandat. Ça va mettre beaucoup de temps à s'essouffler, cette popularité. Je voulais que vous reveniez rapidement, vous en avez évoqué quelques-unes, mais c'est sur quelques réformes sociales qu'il a mises en place ou sociétales. Je pense notamment à un rapprochement, on va dire, avec les peuples aborigènes en particulier.
C'est un de ses regrets. Il a passé quand même 15-20 ans à l'expliquer après, donc dans les années 2000, jusqu'à son décès de mémoire en 2019. Il n'avait pas fait assez pour les aborigènes. Il avait promis un traité, une reconnaissance que la Terre avait été volée, et malheureusement, les planètes ne sont pas alignées politiquement pour faire ce travail. Il y a une chanson très célèbre du groupe Yothu Yindi qui s'appelle Treaty, que je vous encourage à écouter. On voit d'ailleurs au tout début du clip des images de Bob Hawke. Et le chanteur dit oui, tous ces politiciens nous ont promis plein de choses et puis finalement il n'y a toujours pas de traité, nous on veut un traité. Bob Hawke, c'est le grand moment de l'Australie multiculturelle et qui se confronte à son passé. Keating va en bénéficier, Keating essaiera d'avancer plus loin. Hawke est restreint à cause de tout un tas de choses, par exemple du Parti libéral qui est radicalement opposé à l'époque à toute forme de reconnaissance, qui pense que se réconcilier avec les aborigènes, c'est semer la discorde au sein de la population australienne. Donc il a un peu du mal à faire avancer ce dossier. Cependant, c'était quand même le début d'un certain nombre de jugements d'enfers qui sont portés devant les tribunaux en Australie, où les aborigènes viennent réclamer leurs terres, et ces procédures souvent entamées sous le gouvernement Hawke se dénouent plutôt positivement dans certains cas. Quand on s'en voit de Premier ministre, toujours travailliste, Keating, au début des années 90. Les réformes dont j'ai parlé économiques, elles sont évidemment menées par Bob Hawke, mais grâce à son homme de fer en réalité, son ministre des Finances, Paul Keating, qui finira par le remplacer. Donc il y a ce duo à la tête de l'État qui fonctionne très bien. Hawke, c'est vrai, dira qu'il aurait pu faire plus pour les aborigènes et que c'était un de ses grands regrets. Une des choses pour lesquelles il a tiré le plus de fierté, c'est le traité de protection de l'Antarctique qu'il arrive à faire signer pour qu'il n'y ait pas d'extraction de quoi que ce soit en Antarctique jusqu'à au moins 2048. Il était assez porté sur l'environnement, ce qu'il faut le rappeler, dans les débuts des années 80, n'était pas donné à tous les hommes politiques. Donc, pareil, il a senti le vent tourner là-dessus assez tôt.
On va revenir sur Paul Keating. Je voulais juste aborder brièvement la politique internationale de Bob Hawke, et notamment un point en particulier. Vous avez mentionné tout à l'heure le rapprochement et plutôt l'invitation qu'il a faite à la Chine à venir investir dans la région de Pilbara, qui regorge effectivement de minerais, en particulier de fer, et qui reste encore aujourd'hui la région qui assure la quasi-totalité des exportations australiennes. Et comment il a pivoté de l'alliance traditionnelle avec Londres et l'Europe plus généralement et a replacé l'Australie là où elle se trouve géographiquement, c'est-à-dire proche de l'Asie. Et donc tout ça pour dire que Bob Hawke, il est à l'origine d'une institution qu'on connaît sous le nom de l'APEC, qui est en français la coopération économique de l'Asie Pacifique. C'est lui qui a créé ce rassemblement qui a toujours lieu d'ailleurs tous les ans ici.
Oui, et qui maintenant tourne, mais le premier rendez-vous c'est effectivement en novembre 89. Et en fait le principe c'est d'intégrer l'Australie à sa région économique. Il n'était pas jusqu'alors sa région culturelle, puisque les Australiens avaient un réseau de commerce tourné vers l'Empire britannique, puis également tourné vers les États-Unis et dans une moindre mesure vers l'Europe. On sait aujourd'hui que le principal partenaire commercial de l'Australie, c'est la Chine, et cette intégration régionale, en libéralisant les marchés australiens, à la fois financiers, mais à la fois pour les investissements étrangers, et à la fois en faisant, en passant à une monnaie, à un taux de change flottant, tout de suite, l'Australie devient beaucoup plus attrayante pour les investisseurs. Et Hawk, sous l'impulsion de Keating, essaye d'intégrer l'Australie à sa région, en se disant, mais nous, c'est bien, on consomme des services, on peut aussi en donner, mais on a ici énormément de ressources dont les pays autour de nous ont besoin pour leurs industries. Donc, il serait intelligent qu'on se parle tous. Et ça, c'est le principe de l'APEC, c'est de réunir les ministres des économies d'un certain nombre de pays aussi, du Pacifique plutôt, comme le Japon, la Corée du Sud, la Malaisie, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, Singapour, États-Unis, Canada, évidemment. Donc dans cette région, pour faire un peu basculer l'ordre du commerce mondial qui était plutôt sur l'espace atlantique, puis après avec la phase Moyen-Orient et le pétrole, et essayer de construire quelque chose en Asie-Pacifique. Et ça fonctionnait très très bien parce que cette coopération a donné lieu à un certain nombre d'accords à la fois internationaux, mais surtout bilatéraux, entre l'Australie et de nouveaux partenaires économiques. Donc ça a permis de diversifier à la fois la clientèle australienne, si vous voulez, et également de faire accélérer les investissements sur le territoire australien, et pas que dans l'industrie des mines. Voilà, encore une fois, c'est une ouverture qui prend du temps, mais ça a placé l'Australie comme, en organisant, en appelant à cette réunion, comme instigateur de cette nouvelle zone économique.
Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. On se retrouve dans quelques jours pour la dernière partie de cet épisode consacré à Bob Hawke. Dans ce dernier épisode, on verra le rôle qu'a joué le duo que Bob Hawke a formé pendant les 4 mandats à la tête du gouvernement australien avec son ministre des Finances Paul Keating, qui va finir par devenir son rival, et puis aussi le bilan que cet homme a laissé sur la politique australienne. Je vous propose donc de nous retrouver dans quelques jours pour la dernière partie sur Bob Hawke. À très bientôt.